ou différents angles. Dans Jean 2, on va considérer le premier miracle de Jésus. Et comme je le disais tantôt avant qu'on lise, avant le temps de prière, vraiment de considérer ce miracle dans le plan global de la rédemption divine, dans le développement de la rédemption, ça l'amène un regard vraiment particulier. Donc, on va lire, puis ensuite, je veux vraiment vous partager des choses toutes simples, mais vous allez voir qui nous amène un regard, moi en tout cas, nouveau sur ce passage familier. Hein? Et d'ailleurs, familiarity breeds yawning. C'est une autre façon. Des fois, je disais ça dans un livre. La familiarité engendre le bâillement. Tu sais, des fois, on est tellement familier avec quelque chose, on nous fait bâiller, là. On n'aurait jamais été comme ça avec la parole de Dieu. Quand Ésaïe 53, quand Jean 1, quand des passages classiques de même, ça nous fait bâiller, faut qu'on demande au Seigneur, hey, ranime cette flamme, parce que le Saint-Esprit est sur mesure, il y a toujours quelque chose de nouveau, de frais. Pas que c'est nouveau en tant que tel, mais le Seigneur a quelque chose pour nous autres dans ces choses qui semblent tellement des fois familières, mais c'est parce que faut qu'on s'arrête, s'attende à Dieu. Et Dieu a toujours des trésors dans sa parole, elle est inépuisable. Amen?
Amen.
On va lire le chapitre 2, verset 1 à 11. Trois jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut ainsi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures, Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases et les remplir jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas, et ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé de l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord du vin, puis le moins bon, après s'être enivré, ou on devrait dire plutôt après avoir beaucoup bu ou bien bu, toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Seigneur, de la même manière qu'on vient de terminer avec le verset qui nous dit que tu as manifesté ta gloire et les disciples ont cru en toi, ce matin, Seigneur, on te prie que tu manifestes ta gloire à nos cœurs et on veut croire à ce que tu as pour nous ce matin. On n'est pas ici pour être diverti, pour être juste informé. Seigneur, tu nous transformes par le renouvellement de l'intelligence. Transforme nos pensées à la lumière de ce qu'on va voir. Ta parole, elle est vivante et tu ne veux pas simplement nous dire des vérités. Tu veux nous transformer par la vérité, nous libérer par la vérité qui affranchit. Et Seigneur, on va considérer Jésus incarné, la parole faite chair. Et aussi, Seigneur, on sait que tu es vivant et nous sommes ton corps, tout en toi est vivant, Seigneur. Donc, que tu insuffles, Seigneur, un souffle nouveau à ton corps ici réuni, petite église locale comme ça, et même ceux qui ne sont pas parmi nous aujourd'hui, Seigneur, fais ton œuvre de vivification, d'édification, pour ta gloire, Seigneur, manifeste ta gloire. On croit en toi déjà, mais Seigneur, on veut encore plus, Seigneur, découvrir qui tu es et ajouter foi à ce que tu as pour nous. On te demande toutes ces choses au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Et oui, il dit au verset 11, hein, il manifesta sa gloire. Il a manifesté sa gloire avec ce miracle, ce premier miracle. Et j'aimerais qu'on regarde ensemble, le titre de mon message, c'est « Le plaisir de la grâce rédemptrice ». Salut Seigneur, tu as vraiment béni avec des vérités précieuses, je crois, là, dans le mois de mars. Le thème de mars, hein, notre source de grâce, Dieu, notre source de grâce. On a considéré l'ancienne alliance versus la nouvelle dans quelques messages. On a aussi considéré la souffrance dans d'autres messages. Tout ça à la lumière du Dieu de toute grâce. Et je veux conclure le mois de mars et ouvrir le mois d'avril. Je vous annonce déjà que le mois d'avril va s'ouvrir avec un message sur le même concept, la même idée. Avec un mot bien important qu'on va regarder, mais je vous lis deux versets pour vous mettre la table sur ce dont je veux parler. On lit dans Éphésiens 1:5, ça parle de Dieu, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. On lit aussi dans Philippiens chapitre 2, verset 13, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Le bon plaisir de Dieu. On va considérer la notion de plaisir ensemble. Le plaisir de la grâce rédemptrice. Et dans ce message d'aujourd'hui, on va regarder avec ce miracle ici à Cana. On va considérer les choses dans le grand plan rédempteur de Dieu ici. C'est une première mention, le premier miracle. C'est dans un mariage, il y a toutes sortes de d'éléments importants qui sont là. On va considérer ça aujourd'hui. Et je dirais que avec ce qu'on va considérer aujourd'hui, cette notion de plaisir, puis là, quand je parle de plaisir, ne pensez pas à hédonisme. Des fois, en tant que chrétien, il y a des mots qu'il faut qu'on se redéfinisse. Des fois, on peut dire, ah, le plaisir mondain, c'est mauvais. Puis oui, le plaisir mondain, c'est mauvais. Mais Dieu a créé le plaisir. Dieu lui-même prend plaisir à sa rédemption, à sa création. Il a dit que tout était bon, puis il a fait l'homme, il a dit que c'était très bon. Et Dieu nous a sauvés pour son bon plaisir, et lorsqu'on est sauvé, il est notre plaisir. En fait, savez-vous qu'on soupire, en dedans de nous, après ce plaisir qui est authentique, puissant et satisfaisant. C'est ce que ça nous dit dans Romains au chapitre 8. Nous savons jusqu'à ce jour que la création tout entière soupire et souffle les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas à elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous savons nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ces soupirs-là dans nous, le Saint-Esprit en nous qui soupire, c'est après cette joie ineffable que dans la présence de Dieu. Hein, le verset de Psaume 16 que notre frère a cité, c'est vraiment c'est quelque chose de biblique, d'important, cette notion de plaisir biblique. C'est ça que je veux qu'on regarde. Puis dans le prochain message, Dieu voulant, on va considérer toute la question justement du fait que ce plaisir origine de Dieu lui-même. Mais là, on va voir dans le plan rédempteur. Okay? Parce qu'on sait que Dieu est la source de tout vrai plaisir. Il est en abondance. Et lui-même, comme je priais ça, puis pour moi, c'est une notion révolutionnaire. Dieu prend plaisir en nous.
Amen.
Ça, c'est quand même quelque chose. Moi, je me dis, ah non, Dieu n'est pas content, puis j'ai fait ci, puis j'ai... Non, mais c'est pas moi qui l'a décidé, là. Ça dit, là, Dieu prend plaisir en nous. C'est dans l'ancien, dans le nouveau, il prend plaisir en ses enfants. Et là, on va considérer toute cette notion-là. Aujourd'hui, avec ce texte que je dirais pas inédit, mais qu'on va regarder sous un angle qu'on n'est peut-être pas habitué de regarder, sous l'angle du plan rédempteur de Dieu. Le grand plan rédempteur de Dieu depuis tout le commencement de l'humanité. Et on va regarder comment c'est une image de la grâce de Dieu, quand on le considère dans son ensemble. Donc, on va regarder ensemble avec notre texte aujourd'hui. Le fameux miracle de Cana. Trois éléments à comprendre pour voir le Dieu qui prend plaisir dans la grâce rédemptrice, ou si vous voulez, pour voir la grâce rédemptrice à Cana. D'abord, il faut comprendre le contexte du miracle. On apprend au verset 11, c'était le feu à Cana, en Galilée, le premier miracle que fit Jésus. Ce n'est pas sans importance, comme je l'ai dit là, à la lumière du principe de première mention, que ici, on voit le miracle qu'il a fait en premier. Ça donne la primauté, la préséance à ce qu'il a fait. Il y a quelque chose ici, si on traduit en grec, là, c'est un statement. Okay? Il fait un statement. Il fait un énoncé qui veut dire quelque chose. Les miracles avaient toujours un message qui communiquait, mais ici, c'est son premier. Il y a quelque chose de vraiment puissant qui veut communiquer. Okay? Et là, quand on comprend, on situe le contexte, okay, dans le premier point. Là. La rédemption, c'est quoi? La rédemption, on pourrait avoir toutes sortes de réponses pour ça, mais la rédemption, c'est la restauration de la beauté originale du dessein de Dieu. Tu sais, au début, tout était parfait. Puis le péché a tout enlaidi. On est fait à l'image de Dieu. Cette image, elle est ternie à cause du péché. Bien, la rédemption, c'est le retour à la peinture originale, qui est d'une beauté, auquel Dieu prend plaisir. Et pour aller un peu plus loin dans ce sens-là, la rédemption, c'est comment Dieu redirige nos cœurs, hein, par le salut, par la régénération, vers le vrai, le beau, puis le bon. Quand on est sauvé, on prend plaisir à ces choses auxquelles Dieu prend plaisir. OK? Et donc ici, le premier miracle du Rédempteur, de Jésus le Rédempteur, ça se passe dans un mariage. Et ça, c'est significatif parce que l'histoire de la rédemption, je ne sais pas si vous savez, là, mais ça se passe tout le temps dans le contexte du mariage puis de la famille. Du premier mariage en Éden au tout dernier, les noces de l'agneau, l'épouse et Christ. Donc ça commence, ça finit avec un mariage, de Genèse 2 à Apocalypse 22. Donc, c'est pas sans importance ici qu'on est dans un contexte de mariage pour son premier miracle. Et là, ici, on est un peu, si vous voulez, en plein milieu de... Tu sais, j'ai parlé de la Genèse puis de l'Apocalypse. Bien, ici, on est au début du ministère de Jésus. Mais ici, on est au début de l'accomplissement du plan rédempteur. Jésus, là, ce qui a été promis dans l'Ancien, là, il est venu tout l'accomplir, OK? Là, il commençait, là, Jésus là, manifestait sa gloire, sa grâce dans un mariage. Okay? Jésus, alors qu'il est le Rédempteur, qui est venu accomplir la rédemption, c'est pas un hasard qu'il soit en plein ici dans un mariage pour manifester sa gloire avec ce miracle. Donc, si on comprend tout ça, le contexte du miracle, c'est que ce miracle se fait dans un mariage qui est le point tournant entre la chute du premier et la restauration du dernier. Le premier mariage a été un fiasco. Jésus fait un miracle dans un mariage parce que lui, le Rédempteur, c'est lui qui vire les choses de bord. Il préparait pour l'ultime mariage qui est la consommation de toutes choses. OK? Pour ça, je vous dis, le contexte est important. Pour ça, je vous dis, on considère les choses dans leur ensemble, dans le plan rédempteur de Dieu. Ou pour le dire autrement, le message de rédemption de Jésus-Christ ici, là, parce que le miracle a un message, okay? Le message de Jésus ici, c'est essentiellement ceci. Vous avez bousillé l'idéal divin en Éden. Okay? Vous avez bousillé l'idéal divin dans l'endroit même où ça devrait se perpétuer. Okay? La famille, le mariage, le couple, c'est le cœur même de l'histoire rédemptrice, n'est-ce pas? OK? Et là, Jésus, ce qu'il dit, c'est « Mais moi, je suis venu ramener l'ordre ou ramener toute chose. » N'est-ce pas que Jésus, on lit de lui dans l'Apocalypse, c'est dit « Voici, je fais toute chose nouvelle. » Jésus est venu renouveler. Donc, je suis venu pour ramener l'ordre là où tu as commencé à dégringoler. Voyez-vous qu'il y a quelque chose là-dedans, là? La première chose qui fait pour manifester sa gloire, c'est en lien direct avec la première chose où ça s'est mis à mal aller. C'est pas un hasard. Il y a vraiment quelque chose là. Il y a quelque chose ici qui nous révèle quelque chose par rapport à Dieu. Que Comme on a vu la semaine passée avec Jérémie, là même où est-ce qu'on est dans la misère, au milieu même de la misère, hein, c'est ça, la lamentation de Jérémie, hein, au milieu de la misère, Dieu nous rencontre, bien, aussi, il va à la source des choses. Là où ça a commencé à être du trouble, il s'en va à la racine pour aller régler le problème vraiment comme il faut. Ça, moi, ça me parle de la sécurité, du réconfort, de la paix, du soulagement, de connaître ce Dieu rédempteur, ce Dieu restaurateur. On a bousillé dès le début, bien, dès le début, il est venu réparer à la bonne place. C'est ça le contexte, OK? Puis là, le deuxième élément à comprendre, puis à voir, là, pour voir le plaisir de la grâce rédemptrice, ça va jeter un peu plus de lumière à ce qu'on vient de commencer à considérer ensemble. Donc, le contexte, maintenant la symbolique du miracle. Comme je dis, hein, un miracle a un message en tant que tel. Jésus ne faisait pas des miracles pour le divertissement. C'était pour révéler quelque chose par rapport à lui-même. Puis ici, ça dit manifester sa gloire. Mais j'aimerais même dire qu'ici à Cana, on a une image de ce qui est dit dans Romains 5, 20, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Puis ça, vous allez voir quand on comprend la symbolique du miracle ici. Parce que quand on considère ce miracle dans la perspective du plan rédempteur de Dieu, on a une symbolique ici. Si je dis vigne, à quoi vous pensez dans l'Ancien Testament?
Israël.
Puis si je dis vin, à quoi vous pensez? Bénédiction de Dieu. OK? J'irai voir, là, mais tu sais, partout là, dans l'écriture de l'Ancien Testament, là, regardez, je vais vous donner par rapport à la vigne, Ésaïe 5. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres, il a mis un plan délicieux, il bâtit une tour tout autour d'elle et il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produisit de bons raisins, mais elle en produisit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Donc voyez-vous, c'est une image ici, la vigne, c'est Israël. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne? Que n'ai-je pas fait avec pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, elle a produit, en a produit des mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en friche. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront et je les donnerai mes ordres aux nuées afin qu'elles ne laissent pas tomber la pluie sur elles. Ça, c'est l'image du jugement de Dieu sur son peuple. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé, de la justice, et voici des cris de détresse. Autrement dit, la vigne, là, dans l'Ancien Testament, là, c'est Israël, mais c'est un constat d'échec. Mais là, on comprend aussi les paroles de Jésus quand il dit « Je suis le vrai cèpe, je suis la vraie vigne, racine nourricière. Mon père est le vigneron, justement, le vigneron d'Ésaïe, là, celui qui s'est tout occupé. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Voyez-vous, l'image de la vigne ici, c'est important. Où est-ce qu'on voit Israël, puis on voit la bénédiction de Dieu de ce que ça produit, cette vigne, parce que le vin est le produit de la vigne. Et donc, on peut comprendre que la symbolique ici de Jésus aux noces de Cana, c'est la restauration de la bénédiction perdue. Parce que c'est un échec avec Israël, puis c'est un échec avec tous les humains. Là. On ne peut pas pitcher la pierre à Israël. Là. Je veux dire, l'humain a échoué. Le plan rédempteur ne dépend pas de la bonté, de la capacité humaine, mais de la bonté et de la grâce de Dieu. Okay? Donc, la symbolique, c'est ça. Et l'image qu'on a ici à Cana, c'est que Dieu redonne à Israël la pleine bénédiction de sa grâce. Il donne la bénédiction de sa grâce à la vigne qui était mauvaise, qui ne produisait pas de fruits. Là, il fait porter du fruit. C'est ça l'image. Puis tellement en abondance Il y en a tellement qu'il y en a en masse pour les autres. Il y en a même plus que pour ceux qui sont au nord. Selon les quantités qu'on voit ici, là, c'était ben trop. OK? Mais il y a une image aussi là-dedans. N'est-ce pas qu'on apprend dans le psaume 117, « Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Mm-hmm. Célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté est grande et sa fidélité dure à toujours. » N'est-ce pas que Dieu a plus que juste Israël dans son champ de vision? Il bénit Israël pour que ça déborde sur toutes les nations. Et la nation d'Israël, savez-vous, on a une Bible qui nous vient d'Israël, notre Messie est juif, les apôtres, tout, et Dieu nous a bénis à travers ça. Pourquoi? Parce qu'il a restauré sa vigne et on en a la bénédiction, le fruit en abondance.
Amen.
C'est ça la symbolique ici.
Amen.
Maintenant, il y a quelque chose d'important ici. Jésus est là, puis il est dans la fête, puis là où s'est arrêté la honte, il ramène l'honneur. Ça aussi, c'est une belle image de la rédemption, mais en plus, on voit là-dedans un Dieu qui nous invite, puis Dieu nous invite à des noces. Dieu nous invite, puis on le voit ici, on le voit là, mais là, on extrapole de juste ici, puis on voit à d'autres endroits comment Dieu, venez aux vives eaux, venez, venez, comment qu'on a entendu dire venez, puis ça parle des noces de l'agneau, puis Dieu ne nous invite pas à des funérailles. Des fois, on regarde des chrétiens, puis des églises, puis on dit, coudonc, Dieu nous invite-tu à des funérailles, il nous invite à des noces?
Amen.
Il y a quelque chose d'important là-dedans.
Amen.
La rédemption, c'est, puis ça, reprendre les paroles de notre soeur, c'est festif. Elle dit, elle est venue à l'église, elle dit, écoute, on dirait que c'est une fête à tous les dimanches. Bien, c'est comme ça que ça devrait être.
Oui.
Pas en insensé puis faire des folies,
oui.
Mais on se réjouit parce que, hey, Dieu nous a restauré, Dieu a fait toutes choses nouvelles dans nos vies, oui. Dans notre église, et c'est un sujet de joie, de célébration.
Amen.
Donc, Dieu nous invite à une joyeuse fête, une fête de vie, une fête d'union, une fête de prospérité spirituelle. Puis là, je le dis pas dans le sens... Où est-ce qu'on a été volé le thème prospérité, mais dans le sens du Proverbe, chapitre 11, verset 30, le fruit du juste est un arbre de vie, et celui qui gagne des âmes est sage. Prospérité dans le sens de porter du fruit spirituel, de ne pas être stérile, de porter la bénédiction de Dieu en tant que vigne de l'Éternel. Donc, si on comprend tout ça, l'image ici qui est tracée par la symbolique du miracle, c'est que il y avait un manque de vin, c'est-à-dire un manque de bénédiction, un manque de grâce de Dieu ici. C'est ça que ça fait la chute, hein? La chute nous coupe de la grâce de Dieu.
Mm-hmm.
Tu sais, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, mais on a une image de ça ici, on tombe à court, ok? Mais quand Dieu est dans le parti, puis je dis ça avec référence, là, mais quand Dieu est de la partie, il ramène la vie, il ramène l'abondance, il ramène le vrai plaisir.
Amen.
Celui original, perdu à la chute, est retrouvé par la rédemption. Est-ce qu'on a une théologie du plaisir qui est biblique, où on est un peu, on va parler tantôt de ça, on peut tomber dans deux pièges avec le plaisir. On va en parler dans le troisième point, mais je dirais qu'il faut se laisser... enseigné par la parole de Dieu telle qu'elle l'enseigne. Et donc ici, juste pour faire le pont avec le troisième point qui s'en vient, on peut dire que la célébration ici des noces de Cana, célébration du mariage, hein, célébration de la vie, c'était deux vies qui s'unissaient pour donner, ok, c'est toute ça l'idée du mariage, puis c'est vraiment important dans toute l'histoire rédemptrice. Mais ici, cette célébration avait perdu sa joie, avait perdu sa satisfaction, sa... toute la signification qu'elle avait. Pourquoi? Parce que l'agapé, le plaisir divin, sacrificiel en avait été dépouillé. Mais Dieu,
Amen.
A ramené pleinement et glorieusement. Pourquoi? Parce que ça nous dit que c'est comme ça qu'a manifesté sa gloire. Dieu a renversé l'égocentrisme de la fête en y injectant une dose surabondante d'amour sacrificiel, de don de soi. C'est ça l'image, Jésus qui se donne. Puis là, c'est, ah ben qu'est-ce que ça y a demandé? C'est l'image du Dieu qui transforme le mal en bien, qui, là où il y a la chute, il amène la restauration. OK, c'est pas la croix encore, mais déjà, quand on pense au vin, on pense aux fruits de la vigne, on pense au repas du Seigneur, le sang. Donc, il y a une image encore là-dedans. C'est que l'image ici, c'est le don, c'est Christ qui verse son sang, qui coule et qui est donné pour la rédemption. C'est ça, la symbolique ici. C'est-à-dire, la fin du chacun pour soi et la surabondance du un pour tous. Ça part pas des mousquetaires, ça. Ça part de 2 Corinthiens au chapitre 5. « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est ressuscité, qui est mort et qui est ressuscité pour eux. » Ça nous amène au troisième élément à comprendre par rapport à ce miracle extraordinaire, ce premier miracle de Jésus. Non seulement on a le contexte du miracle, on a la signification, la symbolique, pardon, du miracle, mais ici on a, j'aimerais qu'on considère la signification rédemptrice du miracle. Regardez au verset 7 et 8 qu'on peut lire. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas, et ils en apportèrent. » Jésus a rempli. Jésus, c'est celui qui remplit puis qui invite à prendre part à la bénédiction. Et ça, il y a une image là-dedans. C'est Jésus qui invite puis qui appelle à lui-même la source d'eau vive. Et je dirais qu'on a là une image partielle de ce qui va être accompli pleinement. Parce que là, la rédemption, on soupire, on l'a vu dans Romains. Déjà, en tant qu'enfant de Dieu, on est racheté, on a déjà les prémices de l'esprit, mais la pleine rédemption de notre corps, puis la pleine libération, on soupire encore après ça. Puis, il y a un passage qui nous parle de ça. Écoutez, Amos, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, Amos 9:13, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence. » Ça, c'est une image d'abondance, okay, de la restauration de Dieu. « Où le mou ruissellera des montagnes et coulera de toutes les collines. » Ça va être accompli à 100% plus tard, mais déjà par la croix et la résurrection, Christ est venu ouvrir les écluses des cieux. Et à cause de ça, nous sommes bénis en lui de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. La signification rédemptrice du miracle, c'est ça nous pointe à la croix. Ça nous pointe à la restauration de la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ. Et on a un Dieu qui nous invite à prendre part. À prendre part à cette bénédiction, à ce festin, à cette célébration de sa grâce pour que nous puissions découvrir le plaisir de la grâce rédemptrice. Qu'on puisse apprécier, se réjouir pleinement en notre Dieu. C'est pour ça que ça dit, et ça c'est un... Quand il y a un passage qui est dans l'Ancien et dans le Nouveau, c'est parce que c'est important. Dans le psaume 34, verset 9, on peut lire « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. » Et Pierre cite ça dans 1 Pierre au chapitre 2, verset 3, « Si vous avez goûté que l'Éternel est bon. » C'est ça que Dieu veut. Dieu veut qu'on goûte à sa bonté et qu'on s'en réjouisse, qu'on prenne plaisir à lui comme lui prend plaisir à nous avoir sauvés, à nous avoir fait grâce. Il y a un plaisir divin, beau, rédempteur. Jésus ici rectifie les mauvaises compréhensions qu'il peut avoir. Ici, c'est une célébration, c'est une restauration. Et souvent, on peut avoir une mauvaise compréhension de la rédemption de l'Évangile, qui ne met pas Jésus au centre comme ici, mais qui est selon les tendances humaines. Et je vous en donne deux, j'ai dit tantôt que j'allais revenir là-dessus. Deux tendances humaines qui ne comprennent pas bibliquement l'Évangile. D'abord, il y a l'Évangile de privation, comme dans Colossiens au chapitre 2. Si vous êtes mort avec Christ au principe, puis là je vous lis les versets 20 à 23, si vous êtes mort avec Christ au principe élémentaire du monde, pourquoi donc, pourquoi comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont en vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. Ça, c'est un évangile de privation, une moralité stérile. Mais il y a aussi l'évangile fast-food, qui n'est pas mieux. L'évangile fast-food, c'est pêcherions-nous afin que la grâce abonde. Ah, on va faire n'importe quoi, ça va montrer comment Dieu est donc un Dieu qui pardonne. Ça, c'est une dépravité ankylosante. Les deux, c'est pas l'évangile. Les deux, c'est passer à côté de l'essentiel. Savez-vous, c'est quoi la présentation biblique de l'évangile? C'est l'évangile du festin du roi. Ça, c'est l'évangile. C'est pas une privation, c'est pas du fast-food, c'est la vraie nourriture de qualité donnée par Dieu lui-même. Amen. Il est notre pain, puis il nous invite à sa table. Amen. Moi, c'est quelque chose qui m'a frappé quand j'ai été sauvé. J'étais, moi, disons, tu sais, dans le monde avec tout le fast-food du monde. Puis là, quand j'ai été sauvé, c'est quelque chose que ça a trahi, parce que là, moi, je me disais, ben regarde, dans le monde, je sais, moi, je m'étais bien rendu compte que le monde offrait, mais ne livrait pas, que le monde était trompeur dans son menu. Puis c'est quelque chose qui m'a frappé, justement, de voir que Dieu, tu sais, au lieu qu'on aille au fast-food de ce monde, on dit, comment on dit, la nourriture poubelle, c'est quoi, fast-food, la malbouffe, junk food, Dieu nous invite à sa table. Pourquoi on se priverait ou pourquoi on irait manger du fast-food quand Dieu nous offre les mets les plus succulents, les plus excellents? Ça aussi, c'est des images bibliques en passant. Quand Dieu nous invite à sa table. C'est ça l'évangile. Il y a un plaisir, il y a une beauté là-dedans. Il y a quelque chose de restauré là-dedans. On va en parler plus la semaine prochaine, mais allez voir, il y a même un mot qu'on ne connaît pas très bien ou qu'on méconnaît, on pense le connaître, puis on ne le connaît pas. Puis là, je ne vous le dis pas, parce que sinon, il n'y aura pas personne la semaine prochaine. Mais vous allez voir, un mot riche dans la langue grecque qui nous amène tout ce concept-là. Donc, l'évangile du festin du roi, qui est tellement mieux que la répugnance d'un évangile de privation, d'une moralité stérile, ou de l'opulence d'un évangile fast-food, d'une dépravité ankylosante. Non, c'est vraiment... Ah, le festin du grand roi. Et il y a quelque chose un peu, je dirais, là-dedans, qu'on peut voir, on peut en voir un peu la saveur. Lorsque le Saint-Esprit est descendu sur l'Église dans Actes au chapitre 2, le jour de la Pentecôte, qu'est-ce que les gens ont dit? Ah, ils sont pleins de vin doux. OK? Et Pierre dit non, non, non. Puis c'est quoi que Pierre a répondu pour dire, pour répondre à ce que les gens disaient? Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Autrement dit, on voit l'implication ici prophétique de la restauration ici, parce qu'il dit, ah, vous sont pleins de vin doux. Non. Sont pleins de l'amour de Dieu, sont remplis du Saint-Esprit, sont ivres de l'amour, de la vérité, de la grâce de Dieu. C'est ça qui remplissait, ils ne sont pas sous. Ça, c'est la... Puis d'ailleurs, ça nous donne... N'est-ce pas que ça nous donne une autre compréhension à Éphésiens 5, 18? Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit, enivrés de l'Esprit, contrôlés par l'Esprit. Parce que, comme à Cana, on voit ici la signification rédemptrice du miracle, de la restauration, du plaisir rédempteur. Un vrai plaisir, bon, pur, bienfaisant. Pas de la dépravité et des affaires qu'on regrette, mais la beauté du vrai plaisir divin. Là-dessus, je vais amener quelque chose de très important. Parce qu'on parlait d'évangile, de privation versus de fast-food. Puis souvent, ça va se manifester dans différentes façons dans nos vies. N'est-ce pas qu'on parle de rédemption, puis ça nous dit que le mariage chrétien est une image de Christ et de l'Église. Hein? On sait aussi que la famille chrétienne est une image du fruit que ça donne, de la rédemption. Maintenant, Moi, je dirais, tant bien que mal à travers les années, là, et je vous parle vraiment pas d'un piédestal, là, mais je dirais que dans mes relations avec ma femme et ma famille, une force motivatrice qui m'a aidé. Puis ça a été amené par un prédicateur au tout début de notre mariage, qui était un prédicateur invité, M. Kickboxing, que Daniel l'appelle, M. Knickerbocker, qui était venu prêcher. Puis il avait parlé de l'atmosphère familiale. Puis pour moi, ça a été toujours quelque chose qui m'est resté. L'idée que comme famille, est-ce qu'on s'apprécie? Est-ce qu'on se réjouit mutuellement d'être ensemble, de s'aimer, de jouir d'une atmosphère familiale plaisante? Puis là, je ne parle pas d'hédonisme, puis il faut qu'on ait du plaisir, mais comprenez-vous, la notion que Dieu nous a unis, puis que ça, c'est beau, puis que le fruit de ça, fruit de l'esprit, il y a la joie là-dedans, puis il y a tout ce plaisir-là, cette appréciation mutuelle. Autrement dit, lorsque un couple, une famille sont christocentriques, ça va produire ce plaisir, cette réjouissance, cette atmosphère spirituelle, puis l'égocentrisme tue cela. C'est pour ça que je vous dis que je ne vous parle pas de mon piédestal, parce que je suis égocentrique et certainement j'ai miné cette atmosphère, mais ça a été toujours quelque chose qui m'a motivé de dire, OK, tout n'est pas comme ça devrait. On n'est pas dans le jardin d'Éden avec tout idéal. Mais on peut toujours revenir à la simplicité juste d'être content d'être ensemble, puis s'aimer. Puis pour ça que Dieu nous a unis. N'est-ce pas qu'il y a quelque chose de beau? C'est ça, vraiment, là, le plaisir de la grâce rédemptrice. Et ça, c'est dans nos familles, c'est dans nos couples, c'est dans notre vie même. Ça va là au milieu de nous-mêmes. Puis ça, là-dessus, je dirais, ce qui va tellement loin par rapport à ça, qu'est-ce qui va tuer le plaisir? Le mécontentement. Tout le temps trouver quelque chose qui ne marche pas. Ça, il n'y a rien de pire que ça. Il y en a qui ont des tendances plus que d'autres à être mécontents. Mais ça s'apprend. Paul il dit, j'ai appris à être content dans l'état dans lequel je me trouve. Puis une autre affaire tellement importante, le pardon. On se fait du mal, c'est immanquable. Il n'y a pas personne ici, avec nos plus proches, qu'on ne s'est pas fait du mal. Puis du mal fort, là. Profond, là. Mais quand on pardonne, on décroche. Rappelez-vous, hein, c'est laisser l'autre libre. Puis souvent, il y en a qui sont pris dans leur passé comme un boulet de canon parce qu'ils n'ont pas pardonné des blessures, puis ils n'ont pas amené ça au Seigneur pour être guéri, puis pardonner, parce que pour pardonner l'autre, ça prend la grâce de Dieu. Puis là, il y a quelque chose de surnaturel. On se sent libéré. On se sent libéré, on est pardonné, puis c'est beau. Puis là, on peut jouir de la vie que le Seigneur nous a donnée. Sinon, ça nous pèse, ça nous alourdit, ça nous détruit à petit feu. Et savez-vous quoi, c'est la bonne nouvelle à matin? Si vous êtes un enfant de Dieu, là, votre cœur même soupire après ça. Vous avez été sauvé pour ça. Il y a en dedans de vous ce désir pour le plaisir divin, la joie, la beauté de la rédemption divine. C'est en nous quand on est un enfant de Dieu, puis même ceux qui ne sont pas encore des enfants de Dieu. Dieu a mis en dans nous la pensée de l'éternité. Et donc, c'est un appel de Dieu. Mais pour ici, pour les enfants de Dieu, pensons que quand ça va mal, quand on est triste, qu'on est défait, qu'on trouve donc ce monde est déchu, nos vies et tout ça, c'est Dieu qui nous appelle à lui pour expérimenter le plaisir de la grâce rédemptrice. Puis je finis avec une chose que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je le souligne et ça va être une servir de conclusion. On l'a lu tantôt, mais on relit au verset 3. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Écoutez la réponse de Jésus. Jésus lui répondit, femme, qui a-t-il entre toi, entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Là, c'est une genre de réponse de Jésus, là, que là, comment ça qu'il parle de même? Y a-t-il quelqu'un qui se gratte un peu à temps, que ça n'a pas rapport, là, mon âme n'est pas venu, puis il l'appelle femme? Pourquoi? OK, il y a quelque chose, là. Il y a ici, puis il y a dans Jean 26, où est que Jésus interpelle sa mère en l'appelant femme. Jésus voyant sa mère Et auprès d'elle, le disciple qui l'aimait dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Deux fois, Jésus a appelé sa mère « femme ». OK? Ici, dans Jean 2, puis dans Jean 19, 26. Et c'est significatif. Pourquoi? Parce que ici, c'est à l'ouverture de son ministère public. Là, il se fait connaître. Là. Je veux dire, là, il y a des choses qui se passent qui mettent en branle toute une série d'événements. Donc, à l'ouverture de son ministère public et à la fermeture, c'est sur la croix qu'il a dit « Femme, voici ton fils ». Et il l'appelle « femme ». Je pense qu'il y a là-dedans, disons, on est dans la symbolique rédemptrice. Jésus est le rédempteur et le deuxième Adam. Ici, il s'adresse à sa mère. Si vous voulez, un peu comme la deuxième Ève. Pourquoi? Parce que c'est elle que Dieu... Elle n'a rien de spécial, c'est pas une rédemptrice et tout ça, mais c'est la femme dont il était promis dans le proto-évangile de, Jean, de Genèse, au chapitre 3, de cette femme va naître la postérité. Elle représente la femme. Comprenez-vous? Puis il l'appelle femme comme ça. Puis lui qui est le deuxième Adam, qui a rétabli toute chose, il l'appelle femme. Pourquoi? Parce que ça l'amène l'idée qu'elle fait partie de ce plan rédempteur. Donc là, je ne veux rien donner de spécial ou essayer d'élever là, Marie comme un... Non, mais voyez qu'on voit, il y a un accomplissement là aussi, cette femme est celle dont il est question dans Genèse. Et ça nous montre quoi, ça? Dieu nous inclut dans son plan rédempteur. Ici, Marie a son rôle. Un rôle bien unique. Il n'y a pas d'autre femme qu'il y a eu dans l'histoire de l'humanité. Vous savez quoi? Chacun ici, pour notre part, Dieu nous a sauvés. Puis on fait partie de son plan. On n'est pas sauvés par hasard. On n'a pas surpris Dieu quand on a été sauvés. On fait partie de son plan. Je vous le répète, ce que Dieu dit par rapport à ce plan rédempteur, ça dit, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. Dieu est au contrôle de toutes choses. Et il nous rend participants de la nature divine. Il nous donne la grâce de participer à cette rédemption. Est-ce que tu partages cette grâce? Ou pour le dire autrement, est-ce que tu partages ce plaisir? Est-ce que tu trouves du plaisir, une joie bonne et pure et véritable dans le fait d'être inclus dans ce plan rédempteur extraordinaire? Ou peut-être que ces commandements sont devenus pénibles? Peut-être que tu es fatigué et chargé et que la réalité de ta vie, c'est plus un fardeau qu'un plaisir. Mais je réitère ce qui a été dit. On a un Dieu qui nous invite. Si on se sent de même, c'est parfait parce que c'est comme ça que Dieu nous invite. Il n'a pas invité les bons, ceux-là qui vont tout bien, puis il invite les tout croches, il invite les fatigués puis les chargés à venir au plaisir pur et merveilleux de son festin. C'est tout bon. Fait qu'un matin, au lieu de regarder à nous-mêmes et dire comment c'est vrai, j'ai donc de la misère, je n'arrache donc bien, c'est donc bien. Donc, on voit le Dieu qui nous invite à sa table, qui nous invite au plaisir qu'il prend en nous, au plaisir qu'il prend à nous faire grâce, au plaisir de la grâce rédemptrice. Peut-être que votre déconfiture vient du fait que vous êtes nourri d'un évangile de privation ou d'un évangile fast-food. Les deux, en passant, c'est deux versions différentes de citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Et ce n'est pas aller à l'Éternel qui est la source d'eau vive. Là, je viens de vous citer Jérémie 2, 13. Alors, pourquoi ne pas simplement venir à lui, la source de grâce, la source du vrai plaisir? Je vous laisse avec deux versets sur des sources. D'abord, pour le salut. En ce jour-là, ça c'est Zacharie 13:1, c'est vraiment beau. Il y a même en anglais, There's a fountain filled with blood. Ça vient de Zacharie 13:1. En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem pour le péché et pour l'impureté. Si vous n'êtes pas sauvés, la source de pardon, c'est le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus a été versé, vous pouvez être sauvé, pardonné, délivré par le salut en Jésus-Christ. Écoutez maintenant, enfant de Dieu, Ésaïe 58, 11. L'Éternel sera ton guide, il rassasira ton âme dans les lieux arides. Il rassasira ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Tout dépend d'où on tire notre source, d'où on s'abreuve. Donc venez, venez simplement à la source inépuisable de grâce et goûtez combien le Seigneur est bon. Goûtez au plaisir de la grâce rédemptrice. Ah, Seigneur, tu es merveilleux. Et Seigneur, on le dit, mais tu nous l'enseignes, oui, à travers l'épreuve, la difficulté, puis la déchéance de ce monde, tu nous montres comment il n'y a de bon que toi. Il n'y a de source pure et satisfaisante que toi. Merci, Seigneur, que nous avons tout pleinement en toi par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et Seigneur, tu nous invites à un festin. Est-ce que notre vie est comme un festin? Oui, tu as une table vide. Où est-ce qu'on mange à peine les graines qui peuvent rester? Ou est-ce que c'est un fast-food? Des choses qui semblent nourrir, mais qui en fait nous laissent sur notre faim et à long feu nous détruisent. Ah, Seigneur, tu nous invites à toi. Tu nous invites au festin du grand roi. Seigneur, s'il y en a qui ne te connaissent pas, qui voient que tu es là, les bras ouverts, appelant, disant, venez à moi. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Merci aussi, Seigneur, que tu appelles tes enfants toujours. On l'a vu dans la prière ce matin. On est en besoin. On est démantibulé. Mais Seigneur, merci que tu restaures. Merci que quand on vient à toi, on n'est jamais... on est toujours satisfait. On va toujours avoir la bonne réponse, la joie, la paix, Seigneur. Merci pour ça. Il y a d'abondante joie devant ta face. Seigneur, que ton peuple réuni ce matin ici réponde à ton appel. Que ceux qui ne te connaissent pas puissent se confier en toi pour le salut de leur âme. On te le demande au nom de Jésus. Amen. Amen.